Zone critique. Thierry Sartoretti.
Bonjour, bienvenue pour une heure de Zone critique de théâtre. Aujourd'hui, ce sont les trois coups que l'on frappe. En coulisses, salutations à Gilles Ozaman, réalisation technique, qui opine du chef. Madeleine Techer, assistance de production. Au micro aujourd'hui, trois avis de la critique théâtre romande. Marie-Pierre Genecamp, bonjour à vous.
Bonjour Thierry.
Vous écrivez pour le quotidien Le Temps, on vous écoute en matinale sur cette antenne. Et vous êtes venu avec votre confrère de ce même journal Le Temps, Alexandre Demidoff. Bonjour.
Bonjour Thierry.
Bon retour dans cette émission. Et je suis particulièrement heureux, honoré d'accueillir pour la première fois notre troisième larron, Boris Zenf.
Bonjour. Mais bonjour, c'est moi qui suis ravi.
Mais voilà, grâce à vous, le quotidien 24 heures fait son grand retour dans les théâtres et même son entrée dans Zone critique. Voilà, c'est une première. Yahoo ! Le programme du jour, c'est du costaud, des noms célèbres, des textes qui figurent au rayon des chefs-d'œuvre, pas moins. Dans l'ordre de la discussion, il sera question de ces quatre spectacles. L'histoire du soldat, texte de Charles Ferdinand Ramu, musique d'Igor Stravinsky. Omar Porras et sa troupe du Théâtre Malandro signent la mise en scène de cette version qui fut créée une première fois en 2003. Elle renaît actuellement à Genève au Théâtre Amstramgram jusqu'au 3 février, puis à Morges, Théâtre de Beausobre, du 6 au 8 février. Deuxième spectacle, L'Avare, une des pièces les plus jouées au monde, semble-t-il, signée Molière. Montée au Théâtre Kléber-Mello par Gianni Schneider l'an passé, cet Avare transposé sur un yacht, navigue désormais sur les scènes romandes. Il mouille actuellement au théâtre de Carouge jusqu'au 1er février. Il aborde le 2, le Palace de Bienne. Le 5 février, il s'amarre au théâtre Bénobesson à Yverdon. Et le 12, enfin, il jette l'ancre au théâtre du Crocheten à Monthey. Troisième spectacle dans cette zone critique théâtre, Cinéma Apollo, une création qui mêle étroitement cinéma et théâtre, tragédie grecque et drame contemporain. Écriture de Michel Deutsch, d'après les écrivains Homer et Alberto Moravia. Mise en scène signée Langhoff, le père Mathias, mais aussi Caspar, le fils. À découvrir à Vidy-Lausanne jusqu'au 7 février, puis à la Comédie de Genève du 13 au 22 février. Et enfin à Neuchâtel, Théâtre du Passage, ça c'est le 1er mars. Quatrième et dernière pièce de cette zone critique, un classique également, j'ai nommé Le Roi Lear, King Lear de William Shakespeare, dans une mise en scène d'Hervé Loachmol. La pièce tient l'affiche dans son propre théâtre, la Comédie, à Genève, jusqu'au 7 février. Vous pourrez trouver, je vous rassure, toutes les références, les lieux, les dates de ces spectacles, les horaires, etc. Et même, pourquoi pas, les lignes de bus sur notre page internet www.rts.ch/zonecritique, en un seul mot. Et si vous n'avez pas d'accès au web, pas de panique, je vous redonnerai les détails en cours d'émission. Et tout de suite, il est question d'une rencontre fâcheuse entre un soldat et un type beaucoup trop enjoué pour être honnête. On les écoute.
Donnez-moi votre violon.
Non.
Vendez-le-moi.
Non.
Changez-le-moi contre ce livre.
Je sais pas lire.
Vous ne savez pas lire. Ça ne fait rien. C'est un livre, on n'a pas besoin de savoir lire pour les lire.
Un extrait de l'histoire du soldat. On a entendu la voix de Joan Mompard dans le rôle du Piu-Piu et l'accent colombien du metteur en scène Omar Porras dans le rôle du Diable. Faut-il rappeler cette histoire qui relève quasiment du patrimoine national ? Allez, en bref. Rentrant chez lui, un soldat violoniste croise le chemin du Diable qui lui échange son instrument et quelques leçons de musique contre un livre qui prédit l'avenir et plus particulièrement les cours de la bourse. Le soldat en sera riche, mais aussi solitaire et malheureux. L'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr, et le capitalisme a comme une odeur de soufre chez l'écrivain vaudois Charles Ferdinand Ramu, qui prête là sa plume et son verbe, ou plutôt sa verve, à la musique très cabaret contemporain d'Igor Stravinsky. L'œuvre date de 1918. Elle n'est parfois qu'un concert flanqué de quelques récitants. Tout le contraire au théâtre d'Amstramgram de Genève. L'ensemble contre-champ se trouve là en enfer, dans la fosse. Et le plateau est un festival d'effets pyrotechniques et magiques. on y apparaît, on y disparaît dans des nuages de fumée, voire de véritables flammes. Mangez donc ce chocolat qui vous tente, Alexandre Demidov. On y avance masqué également dans cette histoire du soldat, avec des faux nez, des faux semblants, signé Freddy Porras, le frère d'Omar Porras. La création date de 2003. Teatro Malandro la rejoue aujourd'hui dans une version à l'identique qui fait salle comble. Alexandre Demidov, vous n'étiez déjà plus un gamin en 2003.
Non, j'étais encore un enfant.
Vous étiez encore un enfant?
Oui, absolument.
Oh, excusez-moi, alors vous pouvez m'en vouloir maintenant. Mais il semblerait en tout cas que ces jours-ci, cette histoire du soldat vous a fait retrouver votre âme d'enfant.
Mais c'est un bonheur, hein. C'est encore meilleur que le chocolat que vous me proposez. C'est croquant, c'est délectable, c'est intelligent, c'est une fête. C'est une fête totale. C'était déjà une fête, je crois, en 1918. Vous le rappeliez, les circonstances de la création de l'histoire du soldat sont des circonstances heureuses dans une période qui était une période désespérante, notamment pour Igor Stravinsky qui était exilé, qui était sous le choc de la paix forcée signée entre la Russie de Nubolchevik et les puissances centrales. Le fameux traité de Brest-Litovsk. Il était désespéré à ce moment-là. Il se trouve que tout d'un coup, il y a l'envie de monter ce conte d'Afanassiev. Il commence à l'écrire. Il s'associe à Charles Ferdinand Ramu, qui devient son ami, et ça se crée. Alors que Stravinsky a un mauvais caractère, qu'il est désagréable. Vous vous rappelez les circonstances de la création du sacre, désastreuse. Eh bien là, ça se passe dans un climat quasiment euphorique. Et cette euphorie, cher Thierry, on la retrouve dans le spectacle de Mar et de Freddy, parce que je crois qu'il faut vraiment les associer. Freddy, c'est la vision, c'est la patte, c'est la matière. Omar, c'est le mouvement, c'est la danse, c'est le rythme. Et c'est un sens extraordinairement fort, justement, de la musique. On s'en félicite souvent dans ces spectacles, qui sont donc pas des pièces musicales. Et là, dans ce cadre-là, c'est démoniaque, c'est formidable. Juste un exemple, exemple.
Oui, je vous écoute, Alexandre Demidov, vous êtes enthousiaste, ça démarre fort.
Non, mais le narrateur, qui est donc joué par Philippe Gouin. Souvent, vous le disiez, dans les dispositifs plus classiques, vous avez un récitant qui est un petit peu en dehors de l'action, qui peut être posé sur un plot et qui raconte les choses, et puis l'action se déroule à mesure. Là, c'est un narrateur en mouvement. Un narrateur qui danse, on se croirait dans un cabaret berlinois des années 1920-1930. Il y a un côté burlesque, il y a un côté dionysiaque presque dans cette façon d'empoigner l'histoire par le corps.
Précisons qu'il y a aussi beaucoup d'acrobaties qui sont tout au bord de la fosse d'orchestre, ce qui demande pas mal de coordination, parce que tomber dans une fosse d'orchestre,
ça
n'est pas très très agréable, je crois. Vous savez, Alexandre Demidov, que c'est la pièce de Porras et la première version Stravinsky-Ramu jouée en Suisse ont un point commun.
Dites-moi.
La grippe. La première
Absolument.
Pièce n'avait jamais pu tourner en Europe à cause de la grippe espagnole. Et celle d'Omar, ma foi, se joue dans un festival de toussement parfois.
Oui,
dans
mais pas de grippe espagnole qui rirait sur
nous. Non, ça vous rassure. Marie-Pierre Jeunecamp, je vous sais, vous aussi, admiratrice plutôt du travail d'Omar Porras, dont vous aviez louangé sa récente Dame de la mer du Norvégien Ibsen dans cette même émission. Est-ce que vous partagez l'avis de votre voisin, et néanmoins confrère du temps, avis enthousiaste s'il en est?
Oui, c'est vrai que c'est absolument ravissant, charmant. On est captif, on est pris du début à la fin. Moi, je veux vraiment saluer la mécanique de précision que met en place et Freddy Porras, en effet, et Omar Porras, parce que voilà, la musique est là, donc la musique est impérative. Il s'agit de pas non plus déborder. Et tout est en fait à la mesure de cette justement mesure musicale. C'est-à-dire que tout est cadré, mais sans justement cette impression peut-être de devoir être pris dans une sorte de prison du tempo. Il y a vraiment une grande liberté, mais tout en étant... Mais moi, je suis totalement épatée par Philippe Gouin. C'est vraiment celui qui m'a...
Donc, bien le narrateur,
bien que Joël Mampart est magnifique aussi, et puis il est très joueur comme ça, il a un côté presque plus enfant. Notamment, Philippe Gouin, il tire les ficelles. Hein. Il y a à un moment donné presque l'allusion avec le rideau qui se stoppe à mi-parcours.
Oui, au propre,
de la ficelle
figuré,
tirée.
Voilà. Il tire le rideau,
exactement,
il le retire,
exactement,
il le ramène,
donc,
il le rabat.
Il est plus dans la maturité, alors que Jeanne Mompart, il est plus l'objet et l'autre serait plus le sujet. Mais alors Philippe Gouin, je trouve vraiment qu'il maîtrise son corps d'une façon, je l'avais déjà souvent vu, mais je l'avais jamais vu si près parce que j'étais au troisième rang, et donc j'ai vraiment pu mesurer à quel point son corps est totalement en adéquation avec sa pensée. Et c'est très fascinant de le voir, à cette proximité-là. Ça, c'est une petite incise. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup chez Omar Porras, c'est qu'il n'y a jamais une tristesse accablante, alors que la situation est accablante, puisque ce pauvre soldat, en fait, il ne passe pas 3 jours chez le diable, mais 3 ans. Et quand il revient, toutes les portes se ferment, puisque les gens, d'ailleurs, c'était déjà le cas dans Derborens, hein, il y a une histoire de revenant. Et là aussi, les gens pensent que c'est un revenant, donc c'est extrêmement triste, ça peut être totalement accablant. Et ce Jeanne Mompart, qui a cette enfance du théâtre, il est étonné plus qu'accablé. Et ça, c'est une élégance d'Omar Porras. C'est très, très rare, même dans La Dame de la Mer, qui est quand même plus, hein, comme ça, peut-être plus tourmenté, plus intérieur. C'est très, très rare qu'il cède à un accablement. Et je trouve que c'est un beau message aussi pour le public qui est très jeune, qui est dès 7 ans.
Oui, dès 7
voilà,
ans.
Les tuiles les pires ne sont pas la fin du monde, quoi.
Même les flammes de l'enfer sont séduisantes dans cette histoire du soldat.
Exactement.
Boris Zenf, dont l'ancrage vaudois vous confère une légitimité quasi patrimoniale et historique, mais si.
Surtout parce que nous allons accueillir bientôt Omar Porras à Kléber-Mellou.
Exactement. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé votre ramu fétiche dans cette mise en scène très enlevée et fois très latine, on l'a entendu.
Alors effectivement, les tableaux visuels sont d'une force inouïe. Moi, je me suis retrouvé hypnotisé, fasciné. Et je préciserai une chose, c'est que quand vous parliez de pyrotechnie, heureusement quasiment qu'il y a ces énormes pétards aveuglants qui explosent de temps à autre, parce qu'autrement, je pense qu'on finirait par ne plus suivre le cours de l'histoire tellement le côté visuel nous capte, nous fascine. Alors, j'ai malheureusement pas pu prendre mes enfants avec moi pour tester sur des cobayes en live, en pouvant les interviewer par la suite, mais c'était très jeune quand même, la moyenne d'âge, et ça semblait marcher très fort. Donc effectivement, c'est une petite merveille, extrêmement bien rythmée, où justement on retrouve aussi évidemment tout ce côté un peu comédia dell'arte qui est très très plaisant, avec justement parfois quand même cet excès c'est presque cet excès d'attention visuelle qui, justement, à un moment donné, au fond, cette fascination peut presque des fois nous faire oublier un petit peu le propos, quoi. C'est peut-être le seul regret, enfin, qui n'en est pas vraiment un que j'exprimerai.
On se croit parfois presque dans un spectacle de magie, voire même à la Houdini, comme
et
ça,
oui,
un peu.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si Omar Porras s'est octroyé le beau rôle du diable, là. C'est vraiment...
C'est un rôle de metteur en scène, en quelque sorte.
C'est un rôle de metteur en scène. C'est sa figure. C'est-à-dire, c'est une idée du théâtre à travers lui. C'est-à-dire l'idée de la surprise, l'idée du couac qui peut être sublime. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce spectacle, dans ses retrouvailles, vous disiez effectivement que la première version date de 2003, c'est que ce spectacle marque aussi des retrouvailles. Elle marque des retrouvailles entre Omar Porras, Jeanne Mompart, Philippe Gouin, qui ont été étroitement liés il y a quelques années, non seulement avec l'histoire du soldat, mais aussi avec Akirot.
Akirot.
Vous vous rappelez?
Akirot.
Jeanne Mompart, christique, maigre, au possible, ascétique dans le rôle de Kirot, et Philippe Gouin qui jouait son valet.
Pièce montée au théâtre de Vidi, si je me souviens bien.
Qui avait
bien.
Été montée au théâtre de Vidi et ensuite jouée notamment en Amérique latine, à Bogota. Et donc, Omar Porras a souvent dans la bouche le mot de tribu. L'idée que le théâtre Malandro forme une communauté. Eh bien, là, on le réalise. 10 ans plus tard, ils reprennent le spectacle, ils se retrouvent, il y a une idée du spectacle qu'ils partagent, une idée du plaisir aussi, et du théâtre comme une fête.
Eh bien, première pièce, avis unanime, c'est donc vivement recommandé dans cette émission. Je crains, hélas, que la pièce au Théâtre Amsterdam affiche
c'est
peut-être complet.
Hein.
Mais bon, peut-être une toute petite fesse d'enfant peut encore se glisser sur un strapontin, qui sait. L'histoire du soldat, mise en scène d'Omar Porras, c'est donc Amsterdam jusqu'au 3 février. Séance de rattrapage à Morges, Théâtre de Beausobre, du 6 au 8 février. Et on peut espérer que cette pièce tourne ensuite à travers toute la Suisse romande. Vous êtes sur Espace 2, Zone Critique Théâtre. Nous changeons radicalement de ton, de décor aussi. Voici l'avare et on l'écoute, ce vieux Grigou.
Y a-t-il longtemps que vous êtes là?
Nous venons d'arriver.
Vous avez entendu?
Quoi?
Et là!
Quoi?
Mais ce que je viens de dire!
Non.
Oui, oui, je vois bien que vous avez entendu quelque chose. C'est que je me parlais à moi-même de la difficulté qu'il y a à trouver de l'argent aujourd'hui. Et je disais qu'il est bien heureux, celui qui peut avoir 10 000 écus chez lui.
Nous ne voulions pas vous interrompre.
Mais je suis bien content de vous dire cela, pour que vous n'alliez pas vous imaginer que c'est moi qui ai 10 000 écus... et que vous preniez les choses de travers.
Nous ne nous occupons pas de vos affaires.
Si seulement je les avais, ces 10 000 écus, ce serait une bonne affaire.
J'en
aurais grand besoin. Cela m'aiderait beaucoup. Et je ne me plaindrai pas, comme je le fais, que les temps sont difficiles.
Les temps sont difficiles. Un extrait de L'Avare tel que joué lors de sa création sur la scène du théâtre Kléber Mello à la fin de l'an passé. Jean-Damien Barbin joue L'Avare. Sa fille Élise, alias Malia Roman, et son fils Cléante, alias Guillaume Compiano, tentaient d'en placer une. On a entendu leur voix un petit peu. Cette mise en scène de Gianni Schneider tient actuellement l'affiche au théâtre de Carouge. Une description de la pièce s'impose, tout autant qu'un résumé de ce classique de Molière étudié jusqu'à plus soif dans les écoles et joué plus que nulle autre pièce du répertoire français classique. La description d'abord, L'Avare habite, non pas dans une maison parisienne, mais sur un yacht. Il croise entre les paradis fiscaux avec ses deux enfants et son petit personnel. Sur scène, le spectateur découvre le pont arrière du navire, alors que sur un grand écran, à l'arrière de la scène, est projeté la mer et le sillage de ce même bateau. Une drôle de mer d'ailleurs, où l'on aperçoit des enseignes publicitaires au loin et les fumerolles de quelques puits de pétrole en feu. L'histoire ensuite, Monsieur le Pingre destine sa fille à un vieux Richard, dans le but d'avoir évidemment des sous, et souhaite prendre pour épouse la belle et pauvre Marianne dont est épris son propre fils. Le vieux ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à sa cassette planquée dans sa cabine de bateau. Sa fourberie, son avarice et son égoïsme méritent une bonne leçon que lui administra son fils, aidé, ma foi, par la Providence. Le moins que l'on puisse dire, Marie-Pierre Jeunecamp, c'est que vous ne vous êtes pas laissé embarquer par cette vision nautique et un peu bling-bling de Molière.
Non, pas du tout. Pour moi, c'est un problème de choix dramaturgique de base, dans la mesure où déjà l'avare ne peut pas s'acheter un yacht, puisque précisément, il ne peut déjà pas dépenser le moindre centime pour le pauvre bouton de sa vareuse. Donc, voilà.
Il aurait fallu jouer l'avare sur une barque.
Exactement, un canot de sauvetage pour établir un parallèle. Donc là, il y a déjà un problème. Et puis l'autre problème, je vais aller assez vite parce que mes collègues vont pouvoir abonder ou non. L'autre problème, c'est Jean-Damien Barbin, qui est un excellent comédien qu'on a vu chez Jacques Lassalle avec beaucoup de finesse et de sensibilité, qui là, en tout cas, à la première. Moi, j'ai vu la première à Kléber Mello, comme vous l'avez dit avant les fêtes. Donc ça date un peu, mais en tout cas à la première, il jouait pour lui, il jouait tout seul. Il n'y avait absolument pas d'écoute, il faisait des effets de voix. Bon, je l'ai écrit à la Sarah Bernard, enfin, on a l'impression
alors
que c'était
le fils. On l'a entendu, hein. il parle très lentement et détache chaque phrase.
C'était quelque chose quand même très maniéré, d'un peu, voilà, je dirais dépassé, hein, un peu daté. Et puis, effectivement, très peu d'interaction, très peu d'ouverture aux autres comédiens. Alors L'Avare, c'est... Bien sûr, c'est un autiste qui est crispé sur son avoir, mais c'est aussi un personnage qui pourrait être extrêmement touchant dans la mesure où c'est un grand angoissé. Alors c'est bien de ça d'ailleurs dont voulait parler Johnny Schneider, puisqu'il disait qu'en fait, il a la maladie de l'argent, il a la maladie du le gouffre quoi, qui l'aspire.
De le perdre,
mais aussi de trop en avoir, enfin paradoxalement. Et donc, c'est d'où l'allusion aux marques. Et puis, je crois que aussi son propos, c'était de stigmatiser cette société, enfin voilà, capitaliste de consommation, qui tourne en rond et qui fait de l'argent sur l'argent, etc. Donc oui, il avait une grande, enfin j'imagine qu'il avait des grandes ambitions idéologiques ou dramaturgiques, mais après, au résultat, pour moi, c'est effectivement un spectacle qui prend l'eau, enfin pour plus même qui fait naufrage, parce que il n'y a pas de logique, je dirais, la logique dramaturgique n'est pas viable. Ce yacht n'est pas possible pour l'avare. C'est déjà le départ déjà, et puis effectivement ça fait un spectacle bling bling, un peu très composite entre ces vidéos qui sont là pour appuyer un propos qui n'est pas suffisamment clair. Donc c'est toujours un peu problématique quand les vidéos doivent expliquer quelque chose. Je trouve que c'est bien la preuve que le théâtre est pauvre. Le théâtre manque de vigueur si l'image, contrairement à Freddy Porras qui est un parfait, je dirais, synesthésie avec Omar Porras, là
donc,
c'est...
Qui avait créé les mains sur les soldats,
voilà,
je précise.
Donc le précédent spectacle dont on vient de parler, là il y a justement aucune... Oui, sympathie. Enfin, il y a très peu de sympathie entre les images et le jeu. Et ça fait un théâtre effectivement très bling-bling, très, très opportuniste, très, très matu-vu. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sans intérêt. Je me suis énormément ennuyée.
Pourtant, le prince Anselme, alias Jean-Pierre Gosse, débarque sur la scène à bord d'un énorme hélicoptère.
Oui, mais c'est ça.
Ça, c'est formidable.
Non, mais je trouve que ça leur sert.
C'est vraiment donné un sens à la notion de Deus ex machina.
Non, là, j'ai dit 10 fois en plus l'hélicoptère.
L'hélicoptère, moi, j'ai jamais vu l'hélicoptère chez Molière.
Chez Molière, non, mais bon,
Alexandre
alors, c'est tellement typique.
Vous prenez la parole. Vous aimez les hélicoptères, c'est bien. Vous avez vraiment gardé votre âme d'enfant.
J'aime les yachts et les hélicoptères. Moi, j'y suis allé à Carouge il y a quelques jours avec mes enfants. La salle était pleine, il y avait beaucoup d'adolescents. Et je peux vous dire que ça marche. Que les ados sont captifs, qui sont pris par l'histoire, qu'ils sont séduits aussi par Jean-Damien Barbin. J'ai pas vu tout à fait la même représentation que vous, Marie-Pierre. J'ai des réserves aussi sur le spectacle. Je pense pas que c'est un grand spectacle. On prend comme catégorie la couture, on dirait que c'est du prêt-à-porter. Et on parlera tout à l'heure de Matthias Langhoff comme d'un styliste, hein, comme le Lagerfeld peut-être du théâtre.
Je ne sais pas s'il apprécierait la comparaison, mais on verra.
Donc voilà, c'est un prêt-à-porter honorable avec toutes sortes de réserves. Moi, j'ai pas de réserve d'abord sur le comédien. Je trouve que Jean-Damien Barbin suit une ligne un peu crochue, un peu ténébreuse, un peu inquiétante. C'est un acteur assez formidable qu'on a pu voir naguère au Théâtre de Vidy dans Pour un oui ou pour un non, monté par Jacques Lassalle. C'était à la fin des années 1990. On l'a vu tout récemment et vous allez le revoir à la Comédie de Genève, dans Orlando, la pièce d'Olivier Py, le spectacle d'Olivier Py qui sera accueilli, je crois, au printemps à la Comédie de Genève. C'est un acteur bizarre. C'est un acteur un peu timbré et je trouve qu'il donne cette bizarrerie à son personnage. Et on peut regretter au fond que les autres acteurs de la distribution ne soient pas allés aussi loin que lui dans la composition et dans l'interprétation. Parce qu'au fond, ma réserve, c'est que quand on a un habillage aussi fort, alors après on peut discuter effectivement de la qualité de l'habillage, que ces images qui passent en permanence,
la mer, le yacht, l'hélicoptère,
voilà,
etc.
Quand on a un habillage aussi fort, il faut que les acteurs soient très très bons pour supporter la comparaison. Et c'est vrai, la scène de préambule, qui est une scène absolument torride, hein, entre Valère et la fille de l'avare.
Qui est donc filmée.
Qui est filmée. On la voit en noir et blanc, et évidemment mon fils, qui s'appelle Valère, qui a 11 ans, a été saisi.
Vous êtes quand même vicieux, Alexandre Demidoff, de baptiser vos enfants d'après des pièces de Molière.
Saisi par cette scène. Et alors après, la pièce commence. Et effectivement, les deux comédiens n'ont pas la même à la fois vigueur, inspiration que dans le film. Parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu flottant dans le jeu, souvent, qui fait que ce spectacle ne décolle pas tout à fait, malgré, encore une fois, je trouve, le parti pris d'interprétation de Jean-Damien Barbin qui est intéressant, et malgré le yacht, parce que je trouve que finalement, ça se défend, Marie-Pierre. Est-ce qu'il faut que l'avare ait acheté un yacht? Il l'a hérité. Et puis, il l'a hérité.
Oui, mais pour affréter un yacht, il faut beaucoup d'argent.
Il l'a hérité.
Pour vivre une vie de yacht, il faut beaucoup d'argent.
Et au fond, et je pense, dans le yacht, il y a quelque chose de fort. Mm. Pardon, je m'allonge, je dirais encore
non,
une
mais,
chose.
Allez-y, avec
qui peut se défendre, c'est qu'au fond, les grandes figures de Molière, que ce soit Don Juan, que ce soit Alceste, que ce soit Harpagon, ce sont des figures qui sont travaillées par la tentation de l'exil. Et qu'au fond, il y a chez Harpagon quelque chose de l'exil fiscal, peut-être, mais plus profondément, c'est un exil ontologique, si je peux dire. Donc ça peut se défendre.
Je vais trancher pour le yacht. À mon avis, il a été acheté en leasing. Et il n'est pas sûr qu'il le rembourse complètement. J'avais une question à Alexandre Demidoff, avant de passer la parole à Boris Zenf. Est-ce que la diction, le phrasé de Jean-Damien Barbin, a évolué, changé, ou il est tel qu'on l'a entendu à l'antenne il y a quelques minutes?
La diction est sans doute un peu plus vigoureuse et rapide. Mais, disons, le fond reste, hein, il y a ce côté maniéré. Mais encore une fois, quand tant d'acteurs peinent à dire leur texte, hein, on pourrait en parler, hein, ces acteurs dont on ne comprend pas le texte, eh bien, ça fait du bien d'entendre un acteur qui scande de manière claire son texte.
Boris Zen, je me tourne vers vous. Dans la presse écrite, on jette également l'encre. Oh, c'est un peu facile. Est-ce que vous avez, alors à vous de trancher, avez-vous rallié le pont supérieur de l'Avare ou êtes-vous resté à quai?
Pas vraiment. Non. Dans cette pièce revue et corrigée, on va dire, par Bernard Tapie, qui avait un très beau yacht, lui aussi. J'étais d'abord bien sûr surpris par ce que j'appellerais cette télénovelisation au fond de l'Avare, et avec effectivement des effets spectaculaires qui marchent parfois très bien. C'est drôle. Effectivement, l'hélicoptère, on rit, tout le monde se marre. Enfin, j'adore, et puis c'est vraiment très spectaculaire. Par contre, on parlait, disons, de la diction de Barbin, etc. Je pense que ça, c'est effectivement des choses assez secondaires. Ça marche, le jeu tient. Mais c'est une représentation très classique du texte, finalement, malgré les quelques petits changements qu'il peut y avoir ici ou là. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est... Pour moi, c'est une déconnexion complète. La mise en scène avec, en fait, la pièce, elle est totalement déconnectée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le rapport. On ne comprend pas. Alors, il y a les arguments avancés qui sont politiques, le bling-bling actuel, la folie des grandeurs, la finance à la dérive, etc. Mais au fond, ça ne se ressent pas vraiment dans la pièce, dans le jeu, dans l'incarnation. Tout ça, c'est une sorte d'enrobage extérieur.
Il aurait fallu que les autres comédiens... autre que l'avare, à leur tour, soit dans cette veine un peu
bling. Non, mais Jean-Damien Barbin, il n'est pas du tout dans la dérive de la finance, il est chez Sarah Bernard. Donc, il n'y a absolument aucun lien dans son jeu. Ce n'est pas un jeu nerveux, c'est pas un lion de la finance, Jean-Damien Barbin, dans son jeu.
C'est plutôt Pirates des Caraïbes que
Non, il
n'a pas
cette...
Sarah Bernard.
Non, alors, nous, quand on l'a vu, en tout cas, il traînait énormément. Il n'avait pas cette vigueur, justement, du Pirates des Caraïbes. Il n'avait pas du tout cette nervosité.
Il y a un côté un peu Johnny Depp vieillissant.
Pas du tout.
Boris, vous abondez.
Moi, il était un petit peu plus énergique parce que je l'ai vu en fin de parcours à Kléber, donc je ne l'ai pas vu à la première.
J'ai l'impression qu'il sombrait comme le yacht.
Alors,
quoi,
capitaine fracassé ou Johnny Depp, il faudra choisir.
Mais c'est un peu un habillage. Moi, j'avais l'impression d'un habillage de PlayStation. Et puis, effectivement, comme le disait Alexandre, qui vise au fond, j'ai l'impression quand même aussi, justement, le public jeune. Alors, Jenny Schneider dit de 7 à 107 ans, mais enfin, quelque part, concrètement, je pense que si on leur demande leur carte d'identité, ils auront plutôt entre 15 et 25 ans.
C'est une bonne nouvelle pour le théâtre.
Oui, il faut préciser que l'Avare est typiquement la pièce que vont voir tous les collégiens, les cycles, l'orientation, les gymnases.
De toute façon, il était déjà en prélocation, il était déjà complet. Donc quand on dit que c'est complet parce que ça marche, je ne suis pas d'accord. Ça marche parce que c'est l'Avare et c'est Molière. Hein.
Mon vrai regret, c'est que quand on a autant de moyens, effectivement, et un aussi bon acteur que Jean-Damien Barbin, c'est que le reste ne suive pas, que ce soit pas à la même hauteur. C'est vrai que le reste de la distribution, et pourtant il y a de très bons comédiens.
Il joue tout seul, Jean-Damien Barbin. Il donne pas des occasions de jeu, il donne pas des possibilités de jeu à ses partenaires. C'est ça le problème.
Eh bien, à vous de trancher, cher public, chers auditeurs. Car vous avez le temps, l'Avare est promis à une belle tournée. Hein. Il se joue au Théâtre de Carreau jusqu'au 1er février. Mais le 2, on démonte et on remonte. Il est au Palace de Bienne. Le 5 février encore, il occupe le plateau du théâtre Bénaud-Besson à Yverdon. Et le 12, il bouclera sa tournée romande au théâtre du Crochetant à Monthey, avant de partir, je crois, pour la France, où il a également pas mal de dates devant lui. Restez avec nous en zone critique sur Espace 2. On va quitter maintenant le promène-couillon de l'Avare pour rejoindre la Marina. Nous voici en Italie, à quai, à Novare. Je sais, ça n'est pas au bord de la mer, mais bon, c'était pour faire une figure de style. Nous rejoignons le foyer d'un cinéma d'art et d'essai. Il s'appelle Cinéma Apollo. C'est une création signée Matthias Langhoff, avec la complicité de son fils Caspar et du dramaturge Michel Deutsch. Ça se joue à Villy-Lausanne jusqu'au 14 décembre, puis à la Comédie de Genève du 13 au 22 février, et enfin à Neuchâtel, Théâtre du Passage, le 1er mars. On écoute un extrait de Cinéma Apollo.
Mais le producteur, lui, il avait besoin d'une scène avec du sexe, un beau cul qui retienne un moment Ulysse dans son périple fou, le quotidien du conquérant. La femme nue, c'est le producteur qui nous l'avait imposé, Circé. Et tout,
vous me prenez sans doute pour une idiote, mais l'histoire avec Circé, je connais.
Ôtez-moi d'un doute. Vous l'avez étudié en même temps que l'art de bouffer et de vendre des pop-corns.
Ulysse échoue avec ses compagnons sur l'île de Kefalonia.
Non, Aiae, en face de la côte orientale de l'Italie.
Mais d'autres archéologues ont trouvé le pays où habitait Circé la magicienne, l'île de Kefalonia.
Je suis sûr que les archéologues ont mis à jour des bouteilles en plastique et des emballages à l'effigie de McDonald's au milieu des fouilles du club méditerranéen.
Mais qu'il est de mauvaise foi. François Château, prise avec Evelyne Didi. Mon premier est un scénariste aigri, meurtri, qui est venu assister à la projection d'un film, son film, Le Retour d'Ulysse, une vingtaine d'années après sa première projection en salle. Ma seconde est une vendeuse de pop-corn, on l'a entendu, passablement cabossée, excusez-moi, elle aussi par l'existence, et dont le père a cherché vainement les restes des compagnons d'Ulysse et de cette épopée, qu'il situait non pas sur l'île... j'ai eu un blanc tout à coup.
Kefalonia.
Oui, mais sur l'île de Kefalonia, ouais. Plutôt que Ayaya.
Ayaya.
Au Qatar. Bon, reportez-vous à votre petit futé sur la Grèce. Et Mon Tout est une drôle de pièce, une sacrément drôle de pièce, qui se veut une sorte de post-scriptum au roman Le Mépris de l'écrivain Alberto Moravia. Le Mépris qui est bien sûr également une fameuse adaptation au cinéma par Jean-Luc Godard avec Bardot et Piccoli. Ce dernier incarnait alors un scénariste qui perdait sa femme, comédienne, dans les bras du producteur du film. Donc on a un peu un effet de poupée russe. À Vidi Lausanne, Cinéma Apollo joue constamment le yo-yo entre le théâtre et le cinéma, le dialogue et la projection de film, l'analyse de l'Odyssée et une réflexion sur l'histoire du mépris. Un décor tournant digne d'un opéra nous fait basculer côté salle de projection ou côté foyer du cinéma. L'atmosphère de ce dialogue entre hommes et femmes évoque les climats comico-déprimé des films du Finlandais Aki Kaurismäki. On l'a entendu, on rit dans cette pièce. Parfois, il est aussi question de personnages qui ont 6 doigts de pied ou 3 couilles. Pour brouiller les cartes ou éclairer notre lanterne, c'est selon un moyen-métrage nommé « Encore une bière » et projeté avant le début de la pièce. On y voit les mêmes acteurs tenter de monter l'Odyssée d'Ulysse dans une campagne fribourgeoise, alors qu'ils chantent encore et encore la Paloma, cet hymne nostalgique du voyage en mer. À la première du spectacle, les comédiens jouaient pour la deuxième fois seulement la pièce du début à la fin. C'est dire que cette création de Mathias Langrouff est appelée à se modifier au fil des pièces. J'étais pour ma part à la première, tout comme vous, Boris Zenf. Et qu'avez-vous retenu de ce flot de clins d'œil, citations, références où fleurait bon la nostalgie peut-être de ce qui fut naguère la nouvelle vague?
Alors moi j'ai adoré, quoi, tout en admettant que, alors voilà, c'est Mathias Langrouff embrasse de manière tellement large, il a un appétit d'ogre, il se sert vraiment de toutes ses obsessions, de tout son vécu, d'avoir croisé l'histoire, d'avoir été marqué par la Deuxième Guerre mondiale de manière vraiment extrêmement vive, puisqu'il était même né en Suisse, hein, pour cette raison. Et du coup, moi, j'ai adoré ça parce que c'est un théâtre qui prend des risques. Hein. C'est un théâtre qui se jette à l'eau là pour le coup et qui ne reste pas sur son yacht. Hein. Et donc, du coup, au départ, on peut se dire, j'étais sceptique au début, hein, même si personnellement, et donc j'étais même craintif parce qu'en fait, je, en tant que spectateur, moi, je dois énormément à Mathias Langrouff qui m'a en quelque sorte donné des claques théâtrales au jeune homme que j'étais quand il était directeur de Vidi.
Vous êtes toujours un jeune homme, Boris.
presque. Hein. Et du coup, j'étais presque un petit peu sceptique parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a ce préambule filmique qui parfois est un peu potache. On ne sait pas très bien où ça va. Justement, ça, j'ai eu l'impression parfois que c'était une sorte de making of justement de la pièce qui pourrait suivre. Donc on est un petit peu intrigué, tout ça reste assez énigmatique, et ensuite quand la pièce commence véritablement après l'entracte, je trouve que justement tous ces éléments commencent en fait à se répondre, à se refléter, à dialoguer, et au fond on peut, en tant que spectateur, on peut aussi faire un petit peu notre propre choix là-dedans. Il y a un certain nombre d'ingrédients dans lesquels on peut se servir, on peut en faire jouer certains avec d'autres. C'est une œuvre en fait complètement ouverte. Et donc moi je rajouterais volontiers accueillante et débordante même, je dirais. Donc c'était pour moi un grand plaisir. Alors bien sûr qu'après on peut éventuellement sur tel ou tel point dire mais là ça ne tient pas, là, telle chose ne marche pas. Il peut y avoir des arythmies, il peut y avoir des choses comme ça. Ça me paraît logique quand on se lance dans une telle aventure.
Alexandre Demidoff, est-ce que vous avez retrouvé aussi le Mathias Langrouff plutôt chaotique de ces grandes années, notamment à la Comédie de Genève, à Vidi, pour une brève période aussi. Ou est-ce que peut-être vous êtes un petit peu...
J'ai adoré.
Vous aussi. Mais c'est la zone critique la plus positive.
Je ne sais pas si c'est un grand spectacle, ça j'en sais rien. C'est toujours difficile de dire ce qu'est un grand spectacle. Mais c'est un spectacle qui est tellement personnel, où il nous parle tellement de lui. Et il nous parle au-delà de lui, de nous. C'est-à-dire de ses propres paysages, qui sont aussi nos paysages. Il parle de manière magnifique du ravage de l'âge, de ce que c'est que de vieillir comme créateur. Et alors il le dit à plusieurs niveaux. Hein. Il le dit d'abord dans le film, le premier film, Encore une bière, qui est un film mais drôle, vif. Il y a un côté un peu burlesque, parce que dans le film il y a Manfred Cargué. Manfred Cargué qui joue le rôle du patriarche, c'est-à-dire du metteur en scène qui va monter une sorte d'opérette signée Arthur Besson sur le thème du Lys et Circé. Et vous voyez l'extraordinaire visage de Manfred Cargué, cette barbe blanche, on imagine Goethe au crépuscule ou Homère, cet homme retiré de tout qui continue de créer. C'est une extraordinaire allégorie de ce que c'est que le créateur au bout du jour, au cœur de la nuit, au cœur de sa propre nuit. Et puis ensuite, vous retrouvez cette figure du créateur vieillissant à travers François Château, dans le rôle du scénariste, qui est juste extraordinaire. C'est un comédien extraordinaire. On l'a souvent vu chez Mathias Langhoff. On l'avait vu notamment il y a 7 ans à Vidi, ou 6 ans dans Quartet, cette pièce inspirée des Liaisons dangereuses signée Heiner Müller. Et là on le retrouve, mais on le retrouve avec cette élégance un peu crapuleuse, ce côté à la fois délabré et en même temps qu'il y a tellement encore de vigueur et de noblesse. Et il joue extraordinairement cette partition signée Michel Deutsch et Mathias Langhoff, partition très compliquée. Parce que vous aviez raison, Boris, de dire que c'est un spectacle composite, c'est un spectacle fait de beaucoup de choses. Et il est notamment fait non seulement d'un réalisme qu'on dirait un petit peu à l'italienne, cinéma à l'italienne, cette situation, on se retrouve dans le hall du cinéma, mais il est également fait de morceaux, j'allais dire vivants, du mépris. Hein. Il y a des passages... Je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a des passages du mépris et qu'il dit dans un état un peu second, dans cet état de détachement. Alors c'est extraordinaire de le voir ainsi glisser de ce registre un peu réaliste, cru et tout d'un coup à quelque chose de beaucoup plus littéraire. Et Château est un équilibriste sur ces plaques tectoniques que lui assigne Mathias Langhoff, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui est constitué de plaques tectoniques.
Avec différents... À propos de plaques tectoniques, je pense au continent et à la dérive, car vous, Marie-Pierre, vous avez trouvé cette pièce plutôt erratique et confuse, je vous cite.
Oui, alors moi, la première, j'ai eu beaucoup plus de peine que... mon voisin Boris, j'ai beaucoup souffert en fait des parties théâtrales. C'est-à-dire que moi j'ai adoré. Par contre, le film en préambule, j'ai trouvé un air de bohème, un air d'autrefois, une tendresse pour la nouvelle vague, pour ce moment où on réinventait le cinéma quand même, hein, un cinéma poétique, à la fois sensible et politique, mais d'abord poétique, d'abord très intuitif. Hein, je pense bien sûr au Godard, avec un traitement des paysages magnifiques. Hein. Moi, je ne sais pas si on le dit beaucoup, mais en tout cas, ça me frappe que dans Pierrot le Fou, ou bien naturellement dans Le Mépris. Alors, ça se passe à Capri, donc voilà.
C'est très beau.
Nos amis gruyériens qui nous entendent.
C'est très beau. Non. Alors voilà, il y a cette tendresse pour le cinéma de la Nouvelle Vague qui m'a beaucoup touchée en préambule. Et j'étais partie justement sur une espèce de fête et d'une nostalgie aussi, hein, de l'évocation nostalgique d'une Europe qui n'a pas réussi en fait réellement encore à panser ses plaies de la Seconde Guerre mondiale, qui est toujours en souffrance quand même par rapport à une cohésion. On n'arrive pas à trouver une cohésion sinon économique. Donc je pense que le Mathias Langhoff nous raconte ça aussi dans ce patchwork, dans ce côté très morcelé. Par contre, le jeu m'a beaucoup surprise. Alors, moi, j'ai trouvé que le jeu était très en dessous de ce qu'on peut attendre de François Château et de Lynn Didi. Il y avait beaucoup, justement, de confusion, de manque de définition. Mais j'ai appris, je ne sais pas si on peut le dire, que Lynn Didi a repris le rôle très, très tardivement. Elle a repris le rôle, en fait.
En plus,
trois jours avant. Donc, ils ont changé la distribution. Enfin, mm-hmm. ils ont gardé les mêmes comédiens. Mais c'est
la jeune femme qui faisait.
Qui a repris le rôle de la jeune fille.
Voilà. Donc, en fait, il s'agissait
d'une jeune. Je crois que c'était trois jours avant, par contre.
Ou cinq jours.
Moi, j'ai entendu dire que ça s'est passé en décembre, mais...
Dire que...
Alors, moi, on m'a dit 5 jours avant.
Ça expliquerait que Evelyne Didier, qui est en général une comédienne assez, vraiment brillante, peinait véritablement à incarner ce personnage de la vendeuse de pop-corn, à évoquer soit le passé de son grand-père et de son père, soit sa propre histoire. Je trouvais que c'était des vrais tunnels théâtraux, qu'on avait de la peine à simplement écouter, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle-même ne savait pas exactement ce qu'elle disait. Alors, ça s'expliquait par le fait qu'elle avait repris le rôle très, très récemment par rapport à la première. Si c'est pas le cas, peut-être c'est aussi une façon d'être un peu au-dessus du texte par moment. C'est peut-être une façon d'ailleurs langoufienne de ne pas trop théâtraliser, trop, entre guillemets, pathosiser. Ça se dit pas, mais donner du pathos au texte. Et peut-être ça, c'est un problème parce qu'à un moment donné, moi, j'écoutais moins. Honnêtement, toute la partie théâtrale, je me suis laissée dériver. Alors, effectivement, là, il y a aussi beaucoup d'impulsions visuelles puisque sans arrêt, il y a quand même des extraits de films et puis, ce décor tournant. Donc, peut-être que le théâtre, là aussi, doit être plus fort par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre, sur l'avare qui n'est pas, enfin, dont les comédiens ne sont pas à la hauteur
des
projections.
Mais là, je peux vous dire que 4 jours après la première, Evelyne Didier était beaucoup plus à l'aise avec son texte.
Voilà, c'est ça. Donc finalement,
surtout si nous avons assisté à une forme de brouillon quasiment lors de la première, Marie-Pierre.
Puisqu'il n'y avait que 2 représentations.
Exact.
Deux bout à bout, comme on dit.
Oui, et pas même vraiment un filage.
Même si ça pose un petit problème, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus maintenant de pièces qui, au fond, quand on va aller voir à la première, ne ressemblent absolument pas à ce qu'elles vont, enfin, ou en tout cas d'assez loin à ce qu'elles vont devenir une semaine plus tard.
Alors il y a une solution onéreuse qui consiste à retourner plusieurs fois si on a bien pour voir l'évolution. Et puis il y a une solution peut-être plus prudente qui consiste à attendre légèrement. Ça tombe bien puisque Cinéma Apollo se joue jusqu'au 14 décembre. Donc il y a encore... Pardon, 14 février, pardon. Je vais noter décembre sur ma feuille.
Je voudrais dire encore quelque chose.
Mais bien sûr, Alexandre, allez-y.
Tout à l'heure, je disais que Marc Porras aimait travailler en tribu, qu'il aimait retrouver ses acteurs. C'est la même chose avec Langhoff. Et c'est sans doute pas un hasard. Langhoff, même peut-être au crépuscule, il est parfois un peu mélancolique, retrouve un feu sacré au contact de comédiens avec lesquels il travaille depuis longtemps. Evelyne Didi, c'est une comédienne avec laquelle il travaille depuis près de 25 ans. François Château également. Et puis la présence de Manfred Cargué dans le film, évidemment, c'est tout un symbole.
Je comprends. Ça me permet d'ailleurs de corriger ce que je viens de dire comme ânerie. J'ai dit jusqu'au 13-14 février, c'est n'importe quoi. Cinéma Apollo se joue jusqu'au 7 février à Villy-Lausanne. Voilà, c'est dit pour de vrai. Puis à la Comédie de Genève du 13 au 22 février, où il faudra faire entrer ce décor qui est quand même sacrément grand. Et enfin à Neuchâtel, Théâtre du Passage, le 1er mars. Je vous propose de changer d'époque. Shakespeare a lui aussi plus d'un lien avec le cinéma, certes, comme grand scénariste de bien des films, mais à la Comédie de Genève, le metteur en scène Hervé Loichemolle n'a aucune intention de brouiller les pistes entre théâtre et 7e art. Son Roi Lear joue la carte de la sobriété et d'un certain classicisme. Le décor est un panneau de bois percé de 2 simples portes. Par un jeu de projection d'image, ce panneau donne l'illusion d'une pièce de château. Tourné et posé verticalement, il se transforme en un carré de prairie piqueté de fleurs. Horizontalement. Comédiennes et comédiens portent des costumes qui rappellent le début du XVIIe siècle ou les tenues plutôt sexy des méchantes dans James Bond. Les femmes, en l'occurrence Anne Durand et Brigitte Rosset, ont bien de la chance. Quant à Patrick Lemauve, c'est lui qui incarne le roi déchu et bientôt fou. Tenez, on l'écoute, il est au pied de son ingrate de fille, Regan.
J'avoue que je suis vieux. Les vieux sont inutiles. À 2 genoux, je vous supplie de m'accorder le gîte, des habits et le couvert.
Assez, monsieur. Cette comédie est disgracieuse. Retournez auprès de notre fille.
Jamais, Regan. Elle a réduit ma suite de moitié, m'a jeté un œil noir, et sa langue comme un serpent m'a touché droit au cœur. Que toutes les vengeances accumulées du ciel s'abattent sur sa tête. Et vous, souffle pestilentiel, estropiez les enfants qui naîtront d'elle.
Allons, monsieur, allons.
Vous, prompts éclairs, dardez vos flammes aveuglantes dans ses yeux méprisants. Infectez sa beauté. brouillard que le puissant soleil aspire des marais pour la flétrir et pour la battre.
Oh, Dieu béni.
Dieu béni, Boris Zenf, vous qui n'avez pas le souffle pestilentiel, qu'avez-vous retenu?
Vous êtes trop loin pour le dire.
Et oui, et nos auditeurs encore plus. Qu'avez-vous retenu de cette mise en scène du Roi Lear?
Alors c'est vraiment la pièce dans celle qu'on est en train de discuter aujourd'hui qui m'a posé, je dirais, le plus de problèmes pour pencher vraiment d'un côté ou de l'autre, dans le sens où, au fond, ce que j'en ai retenu principalement, c'est que pour moi, c'était la restitution d'une œuvre littéraire. C'est ça qui primait. Moi, j'ai eu du plaisir à m'embarquer dans l'histoire du Roi Lear. Je me suis pas ennuyé. C'était bien rythmé. J'étais aussi, j'étais tout à fait saisi par, je trouve, en tout cas par moment, par la spatialisation aussi de la mise en scène. Je trouve qu'il y a des moments qui marchent très très bien, qui sont bien rythmés avec des enchaînements comme ça entre les scènes qui tiennent un peu comme ça du fondu enchaîné, même si donc tout ça est très très minimaliste. Je dirais que c'est un traitement un petit peu néoclassique. Par contre, c'est vrai que j'ai pas vraiment vu, en tout cas, de préoccupation d'actualisation du propos shakespearien. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression là que voilà, on prend un texte, on le remanie un petit peu, on lui donne quelques petites impulsions ici ou là, comme ça, pour lui donner un peu de modernité, de contemporanéité, mais il n'y a pas véritablement, comme ça, de volonté de se saisir de l'aujourd'hui. On reste quand même, malgré tout, je trouve que le spectacle est tiré vers le passé, au fond, vers une restitution, finalement assez classique. Donc ça j'ai trouvé à la limite un petit peu dommage, mais en même temps ça se tient, au fond. C'est-à-dire que moi j'ai eu du plaisir. Après il y a des trous d'air aussi, ça il faut le dire. C'est-à-dire que comme le spectacle est quand même
3h40 avec un entracte, hein,
voilà, exactement. Donc qui m'a d'ailleurs failli faire rater mon train, mais j'y suis parvenu. Mais et alors donc il y a quand même quelques trous d'air. Il y a des moments comme ça où tout d'un coup ça se délite, où on voit plus très bien où on va. Je pense que ça aurait pu être un petit peu resserré, quoi, disons, pour garder le rythme qui par ailleurs par moments je trouve excellent.
Marie-Pierre, je me tourne vers vous. Le Roi Lear qui cède le pouvoir à ses trois filles, mais très rapidement en bannit une pour favoriser les pires. Mm-hmm. Comment l'avez-vous trouvé?
Bon, je rejoins l'avis de Boris, c'est-à-dire qu'il y a un souci, je dirais plus quand même une obsession chez Hervé Loachmol, d'une tenue, d'une classe. J'ai titré statue de sel parce que vraiment, ce qui est caractéristique de cette mise en scène, c'est qu'il y a très 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 peu de mouvement. En général, les comédiens sont plantés, rivés à ce plancher incliné. Ils fixent le public. Il y a une sorte de hiératisme qui effectivement leur rend totalement justice au texte parce qu'il n'y a pas de parasitage. Le texte est quasiment audible dans ses moindres détails, mais par contre, il y a une immense monotonie. Il manque vraiment...
Dans le geste.
C'est pas qu'il manque de gestes, c'est qu'il manque de variation, je dirais, dans les intentions. Et d'ailleurs, il manque d'intention, souvent. La façon de dire le texte est extrêmement monocorde. La plupart des comédiens disent le texte sur le même ton. Si vous observez, et même Patrick Lemoeuvre, qui est pourtant un excellent comédien dont on apprécie la finesse, parce que là, son Roi Lear n'est pas tempétueux, c'est pas le Roi Lear de Piccoli qu'on a pu voir avec Alexandre aux ateliers Berthier, donc à l'époque montée à Paris, montée par André Engel en 2006, donc ça date un petit peu. Donc Roi Lear de Piccoli, on peut l'imaginer, c'est un Roi Lear très ténébreux, très démentiel, très comme ça torturé, mais alors vraiment il prenait tout l'espace, quoi. Tout à coup c'était
une sorte de surhumanité bourgeoise.
Voilà, exactement. Oui, alors
bourgeois, il y avait un côté bourgeois aussi.
Oui, voilà. Parce que c'était situé dans les années 40, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement.
Hein.
Tandis que là, on a un roi.
Mais là, il est plutôt.
Certes orgueilleux, mais assez vite quand même penaud.
Voilà, exactement penaud. Et puis, il y a une sorte de doux délire. Hein, on dirait qu'il sort un peu d'une fête indienne à un moment donné, parce qu'il est donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est lui aussi piqueté de fleurs de couleur. Et il a l'air d'être un peu comme ça, une vache sacrée. Ça m'a fait penser à une vache sacrée, bon, bref. Mais surtout ce côté un tout petit peu doux délire, un peu comme éthylique ou alors d'autres substances. Et il n'est pas dans une folie furieuse, il est vraiment dans une douce folie. Ce qui est une proposition, mais qui a le problème, qui entraîne le désagrément de désamorcer la charge, la force du texte, et on finit quand même par s'ennuyer, parce que tout est un tout petit peu sotto voce, comme ça. Il n'y a pas du tout de... Il y a très peu d'ampleur, il y a très peu... Donc là, je parle vraiment de tonalité de voix, hein. Non seulement, alors c'est très peu incarné, bougé, très peu mouvementé, mais en plus, il y a très peu de... Oui, ça manque pour moi de point de vue, et ça manque d'intensité, ce qui fait qu'on n'est pas face à un grand Roi Lear. Voilà.
Avec vous partagé, Alexandre Demidoff, roi Lear, moyen, grand, alors, petit, quelle taille il a ce roi? Sans parler évidemment du comédien qui l'incarne, mais de la pièce.
Bonne taille moyenne. Non, c'est un spectacle, je dirais, prenant, pas saisissant, mais prenant. Donc c'est un spectacle qui pour moi, a une tenue, a une exigence, qui est plutôt bien interprétée. Je trouve que Patrick Lemoff est remarquable. Il est remarquable dans cette façon de glisser, effectivement, d'un ordre assez bourgeois, assez conventionnel dans le costume déjà, dans cette autorité qu'il a au début sur ses filles, jusqu'au désordre de la lande et jusqu'à la déchirure finale, ce retour du cachot où le félon Gloucester, le bâtard l'a fait jeter et revient effectivement en portant sa fille Cordelia. Je trouve qu'il y a une très très belle composition d'acteurs et qu'effectivement Patrick Lemoff n'a peut-être pas la charge mythologique de Piccoli, mais en tout cas, il a la force et le talent du rôle. Après, si le spectacle n'est pas saisissant, c'est peut-être aussi une question d'amplitude, vous le disiez, Marie-Pierre, et de tableau. Au fond, ce qui rend parfois Lear saisissant, c'est la scénographie. Si on se rappelle aussi bien du Lear d'André Engel en 2006, c'est parce que le scénographe s'appelle Nicky Rietti, et que Nicky Rietti est un des scénographes sans doute les plus géniaux de sa génération, qui a un sens très très fort du cinéma.
Dans les ateliers Berthier, qui étaient immenses, voilà. Donc il avait vraiment exploité toute la vaste...
Le scénographe, c'est Tillet, je crois, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, exactement. Dans le sobre, là, plutôt. Alors,
et dans le sobre. Alors, c'est un parti pris qui se tient, mais qui ne fait pas non plus une vision qu'on emporte avec soi. Moi, ce que j'emporte avec moi, outre, effectivement, Lemoff, c'est plusieurs comédiens. Parce que le plaisir de ce spectacle aussi, c'est de voir s'affirmer de jeunes comédiens. Il y a notamment effectivement formidable Jean-Aloïs Belbachir qui joue le rôle du félon, du bâtard et qui a un charme crapuleux dans ce rôle. J'avais rarement vu d'ailleurs ce rôle si bien interprété avec autant de magnétisme. Et puis il y a une autre comédienne que j'adore parce que je trouve que vraiment c'est une comédienne qu'on ne voit pas, qu'on voit beaucoup à la comédie, heureusement, et qu'on n'avait pas vu jusqu'alors assez, c'est Camille Figuereo, qui est non seulement...
Qui a le rôle du bouffon.
Et qui a le double rôle. Mm-hmm. Et ça, c'est la belle idée de la mise en scène d'Hervé Blachemol, c'est qu'au fond, il a demandé à Camille Figuereo de jouer le rôle et de Cordelia, et du bouffon, donc de ce fou, de ce Jiminy Cricket, qui accompagne Lear jusqu'au bout de sa nuit. Et je trouve que ça, c'est une jolie idée de mise en scène, parce qu'au fond, c'est comme si la part sacrée, la part irréductible, la part honnête de Cordelia accompagnait Lear sous le masque du fou jusqu'au bout. Cette comédienne est réellement merveilleuse.
Quelle jolie évocation.
Aujourd'hui, on demande toujours justement au personnage fou, sanguinaire. Il y a une sorte de surenchère. On a l'impression que c'est l'impulsion des films de super-héros et de super-vilains. On en veut toujours plus. Qu'il soit... Et je trouve que parfois, revenir à une certaine normalité de ce genre de personnage, ça donne aussi un accès plus facile justement à la problématique.
Eh bien voilà, ce King Lear, roi Lear, qui n'est pas dans la surenchère, loin de là, d'Hervé Loachmol. Faites-vous-en votre propre idée, chers auditeurs. C'est jusqu'au 7 février au Théâtre de la Comédie de Genève. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les dates et adresses sur notre site internet www.rts.ch/zonecritique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, réécouter et partager cette émission en podcast. Il nous reste une poignée de minutes, un petit grappillon de minutes, pour évoquer éventuellement une pièce qui vous aurait frappé ou que vous vouliez recommander, pourquoi pas. Je crois que Boris et Marie-Pierre, vous avez le même coup de cœur pour une pièce qui n'est pas sans lien avec le roi Lear. Qui parle ?
Je me lance. Donc, il s'agit de Ballade en orage. Donc, c'est une pièce qui a été en effet réécrite d'après le roi Lear par Julien Maje, un auteur dont j'apprécie beaucoup la sensibilité, la finesse et l'élégance de l'écriture. Vraiment, il a une très très forte... Je pense que c'est un de nos meilleurs dramaturges romans, jeunes dramaturges romans actuellement. Et en effet, il propose alors non seulement une réécriture de Roi Lear, mais une réécriture chantée, ce qui est encore plus audacieux. Et voilà, ce spectacle donc, va se donner au Théâtre du Loup du 28 janvier au 31 janvier,
exactement.
Et c'est une, il faut féliciter d'ailleurs le Théâtre du Loup de programmer Julien Mach, parce que c'est pas encore quelqu'un de suffisamment connu pour forcément drainer un public, un vaste public, mais alors, ça mérite vraiment le détour, parce que c'est une composition, c'est un peu du théâtre en chambre, comme ça, enfin, théâtre musical de chambre, en chambre, et autour du cadavre, alors on le voit jamais, hein, c'est pas du tout un Roi Lear là qui s'effondre devant nos yeux, c'est un Roi Lear qui est déjà mort, et je dirais que ses enfants se disputent un peu ses restes.
Donc, Ballade en orage, inspirée du Roi Lear de William Shakespeare, compagnie Julien Mage, mise en scène, écriture de Julien Mage. Je me tourne vers vous, Alexandre Demidoff. Une autre proposition, peut-être ?
Je ne parlerai pas de spectacle, mais de livre.
Mais on peut lire aussi dans cette émission, vous savez, c'est autorisé.
Et c'est un livre remarquable et très inspirant, et je crois que vous allez partager, cher Thierry. C'est le livre que Marcela San Pedro, la danseuse Marcela San Pedro, consacre à Noémie Lapsazone. Noémie
Lapsazone, chorégraphe,
danseuse, genevoise, dont l'importance est forte pour toute la scène chorégraphique en Suisse romande. C'est un livre d'entretien où Noémie Lapsazone parle à la fois de sa vie, de sa carrière chez Martha Graham dans les années 60, mais aussi de son enseignement. Et c'est la beauté au fond de c'est la beauté du compagnonnage.
Vous en avez le titre ?
Pensez le corps.
Pensez le corps.
Je crois. Chez Métis. Aux éditions Métis.
Eh bien, Pensez le corps sera notre dernier mot, car nous allons tirer le rideau. Zone critique se termine. Le prochain rendez-vous scénique a lieu le 27 février. Merci de votre écoute et hommage à vous qui avez participé à cette émission. Marie-Pierre Jeunecamp, Alexandre Demidoff, Boris Zenf, Madeleine Teuchère, Gilles Ozaman, sans qui cette émission, ma foi, n'existerait tout simplement pas. La semaine prochaine, même jour, même heure, Zone critique sera littéraire en compagnie de Catherine Fadbert. Alexandre Demidoff, vous nous rappelez juste le titre du livre sur Noémie Lapsazone ?
J'espère que je ne me trompe pas. Pensez le corps aux éditions Métis.
Et voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle les quatre titres des pièces dont il était question, la zone critique, l'histoire du soldat, l'avare, cinéma Apollo et le Roi Lear, de même que Ballade en orage. Nous vous invitons à les découvrir par vos propres yeux dans les théâtres romans. Il est bientôt midi, vous êtes sur Espace 2, c'était Zone Critique Théâtre. Dans quelques secondes, ce sera les informations. Et ensuite, vous retrouverez Yves Bron et son équipe pour l'émission musicale Magma. Il est midi sur Espace 2.